Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» avec toujours Lucas, le beau Lucas à la sono, à la technique. Et aujourd'hui, un invité de marque. Hein,
merci.
Qui nous vient de Beurre, non ?
De Beurre ?
Eh bien, Motte de Beurre. Oh. Dominique. Dominique Motte. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Mais oui.
Oui, tu es resplendissante. Belle chemise rouge avec une écharpe. C'est parce qu'il fait froid, là.
Eh bien, on m'avait dit qu'il faisait toujours beau ici. Mais...
Ma cage bono. Bon, je veux tout savoir sur toi.
Eh bien.
Tu es né quand ? Où, comment, pourquoi ? Voilà, déjà.
Alors, le pourquoi, je ne sais pas.
Merci. Tes parents doivent
Eux doivent le savoir, voilà. Oui. Et autrement, je suis né à Paris. Et
aïe, voilà. C'est pas de ta faute.
À l'hôpital de la Pitié.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Et au mois d'octobre 1959, le 29 octobre.
Ah bon, ça
1959.
Va. Ça t'a fait donc 7 ans de moins que moi, donc.
Et
donc
je suis un jeune.
Et là, c'est me réfléchir, donc c'est 48 par là.
Ah non, 57, bientôt 58.
Voilà. Ah, putain, je me suis rajeuni. Ouais. Coup. Et oui, parce que depuis 3 jours, j'ai 65.
Mais oui,
et ça
mais
passe,
oui,
mon ami.
Mais oui.
Et alors, tes parents, ils faisaient quoi ?
Mes parents étaient divorcés. Donc, du côté de ma mère, elle était secrétaire.
Oui, voilà. Mais quand ils t'ont eu, ils n'étaient pas encore divorcés.
Ah non, non. Ma maman était secrétaire. Et mon père était, à l'époque, il travaillait dans une agence immobilière. Il était syndic, voilà.
Pourquoi tu y étais ?
Parce qu'après, il a changé de boulot.
Tu les as encore, tes parents ?
Ah non, je les ai plus.
Ah oui.
Voilà. Ouais.
Puis, et tu as des frères et des sœurs ?
J'ai un frère.
Aîné ?
Non, plus jeune.
Cadet.
Qui s'appelle Phil et qui est musicien, lui.
Ah.
Ouais, il est saxophoniste.
Alors, quand tu avais besoin de musique, tu disais, c'est à Phil de faire. Et vu qu'il emmerdait les gens, c'est un fil de fer, barbelé. Et oui,
et oui.
Très bien. Donc, tu as vécu la petite école à Paris ?
Absolument.
Jusqu'à quand ?
Alors,
tu as été jusqu'à Paris, jusqu'à pas longtemps.
En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est mon père qui avait notre garde. Il habitait dans le 12e à Bercy. Donc voilà, j'étais à l'école élémentaire et maternelle rue de Pommard, ça ne s'invente pas.
D'accord.
Voilà, il y avait le village à 20 à côté, voilà, et tout ça. Et puis après ça c'était moins rigolo, je me suis tapé plusieurs années d'internat quand même.
Chez les prêtres ?
Non, mais c'était pire.
Aïe.
Voilà, tant que ça c'était rude. Et puis après, à l'adolescence, on est parti vivre chez ma mère, et là on est parti vivre en banlieue parisienne en fait, à Asnières-sur-Seine.
Voilà. Ok. Ouais. Et t'es allé jusqu'où en études ?
Jusqu'au bac.
Tu l'as eu ?
Je l'ai eu. En fait, je fais partie de ces adolescents à l'orientation contrariée, parce que moi, j'étais un littéraire, donc j'étais le genre d'élève, j'avais 18 de moyenne en français et 2 dans le reste.
Et, oui.
Et donc, je voulais faire des études de lettres, je voulais être prof de français. Et puis, à la fin de la troisième, on m'a dit, ah, mon gars, tu rêves ou quoi ? Et donc, on m'a envoyé en BEP d'agent administratif. Donc, j'ai un bac de sténodactylo, en fait.
Ouf, d'accord.
Et puis, voilà.
Mais tu remarques, sténodactylo pour écrire.
En fait, la seule chose qui est utile là-dedans, c'est que du coup, quand je travaille à l'ordinateur, je tape avec les 10 doigts, quoi. Mmh. Donc, voilà.
Et moi, avec 2.
Comme les policiers qui tapent toujours, tu sais.
Non, eux, c'est avec 1. C'est ce que c'est, un demi-poulet, tu sais ça. Le mec qui ne sait ni lire. Alors donc, tu as eu le bac et après, tu as fait quoi ?
Alors après, l'émission suffira pas. Hein.
Non,
mais disons pour faire très court. Après le bac, j'ai fait des milliers de petits boulots et tout ça. De distributeur de prospectus à intérimaire, travailleur à la chaîne, à Renault. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses. J'ai été longtemps animateur enfant. Donc, je faisais, tu sais, la restauration scolaire le midi, les mercredis, les vacances, beaucoup de colos, de classes transplantées, etc. Parallèlement à ça, j'étais musicien. J'étais percussionniste à l'époque. Donc, je jouais conga et un instrument qui vient du Brésil, qui s'appelle le berimbau, dont je joue d'ailleurs toujours. Donc voilà, j'ai fait ça longtemps. Puis à un moment donné, s'est posé la question, que ça marchait pas au niveau économique, voilà. Et donc, j'ai fait une formation et je suis devenu un cadre de l'animation socioculturelle, n'est-ce pas ? Donc, je suis passé par les MJC et puis après, je me suis stabilisé pendant à peu près 25 ans comme directeur culturel pour différentes villes de la région parisienne.
Super, c'est bien.
Voilà, et donc c'était un métier intéressant, hein, parce que c'était très diversifié. En fait, directeur culturel, tu t'occupes de tout, de spectacle, de la programmation, de tout ce qui est enseignement artistique, les médiathèques, enfin voilà. Et puis donc là, depuis à peu près 5 semaines, j'ai fait le choix de venir vivre dans votre belle région.
Dès que tu habites à Najac. Hein.
Et j'habite à Najac, où j'ai rejoint ma compagne Sylvie. Voilà.
D'accord. Très bien.
Et là, évidemment, bah, je change aussi de métier. Voilà.
Mais ce métier, on va en parler dans 5 minutes après avoir écouté et le premier titre que tu as choisi, qui s'appelle Tikenja Fakoli. Ça, c'est le monsieur, Fakoli. Le titre Fakoli.
Ouais.
C'est It's because I'm black. C'est parce que je suis noir.
Voilà.
Eh bien, on écoute. Hein.
My people. Dark brown shade of my skin. Only adds color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
This world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Hey.
Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back. Is it because I'm black?
Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black?
Stealing his first piece of candy, got caught.
Wandering around life's corner, somewhere I got lost.
Something is holding me back. Is it because I'm black?
I wanna know, I wanna know, yeah.
Something is holding me back.
People.
Is it because I'm so black?
Tell me, can't you see?
Somebody, please tell me, is it because I'm black?
Is it because of my color? Hey, hey, hey.
Ouais, c'est super, tu me dis, c'est un mélange entre musique malienne et le reggae.
Oui, voilà, manière de boucler la boucle, hein, puisque ah ouais. Voilà, et je trouve cette rencontre-là absolument passionnante et en plus très agréable à écouter.
T'es un des rares mecs que je connais, qui a été responsable culturel, qui connaissent la musique en fait.
Ah, oui.
Parce qu'un mec comme Ayagon, tout ça, pff, niveau musique,
C'est vrai que dans le milieu culturel, on va dire, il y a un art majeur qui est le théâtre, et la plupart des responsables dans les institutions culturelles, en fait, viennent du théâtre. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et beaucoup moins comme moi qui viens plutôt de la musique, soit les musiques du monde, soit le rock, etc. C'est déjà beaucoup plus atypique.
Oui, tu m'étonnes, voilà. C'est bien. Voilà. Donc, tu es arrivé à Najac et maintenant, alors, depuis donc pas longtemps, tu y fais quoi à Najac ? C'est pour ça que tu es venu d'ailleurs.
Voilà, alors je suis venu avec un nouveau projet professionnel qui est de me dire, bah voilà, au niveau directeur culturel dans la région, il n'y a pas vraiment, enfin pour l'instant, je n'ai pas trouvé en tout cas de piste. Et donc je me suis dit, bah si je veux venir vivre ici, il faut que je développe ma propre activité. Et il se trouve que depuis 20 ans, parallèlement à mon travail de directeur culturel, je développe un travail de conteur musicien. Et par ailleurs, un travail autour du tarot de Marseille. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je sais faire ça. Et puis, donc, conteur. Donc voilà, je viens ici pour essayer de vivre en tant que conteur, musicien, en tant que tarologue, puisque c'est le mot quand on travaille avec le tarot de Marseille, et en tant que masseur, puisque j'ai fait une formation en ce qu'on appelle en massage assis, qui est un massage sur une chaise qui est étudiée pour et qui peut se pratiquer dans n'importe quel contexte. Voilà. Donc là, par exemple, mais on y reviendra peut-être après, mais j'ai massé sur le marché nocturne à Najac, quoi, par exemple. D'accord. Cet été. Ouais, voilà.
Et alors là, qu'est-ce que c'est? Il faut des diplômes, c'est officiel, c'est reconnu.
Mais absolument, j'ai fait une formation certifiante, etc., de praticien en massage assis. Donc c'est un massage de détente, hein, c'est pas un massage thérapeutique, je suis pas médecin, je suis pas kiné.
C'est un massage pervers.
Ce n'est pas un massage érotique, mais c'est un massage de détente et de bien-être et ce qui peut se pratiquer donc aussi bien en événementiel, en extérieur.
Il y a pas mal de festivals.
Mais qui propose ça bien sûr. Oui, oui. Et puis aussi beaucoup, et là je vais essayer de développer ça, beaucoup en entreprise, dans le cadre de la prévention, ce qu'on appelle dans le jargon des risques musculo-squelettiques, et puis dans la prévention du stress au travail, enfin bien-être au travail,
oui,
etc.
Oui, tous les mecs qui se suicident, là.
Mais bah, par exemple, voilà. Mais par exemple, moi, j'ai massé dans le cadre de ma formation, la ville où je travaillais avant, j'ai massé pendant une semaine les dames qui font le ménage dans les écoles, par exemple.
D'accord.
Et vraiment, c'était vraiment bien comme expérience, parce que c'est vraiment les corps souffrent beaucoup de faire ces métiers-là. D'accord. Et c'est vraiment, ça fait un bien fou, quoi. Voilà.
J'ai un copain qui a plein de magasins de tracteurs, et là, tu peux y aller, parce que tu peux masser Ferguson, si tu veux.
Purée.
C'est pour détendre. Moi, je ne masse pas, je fais rien.
Voilà,
ça fait
c'est
du bien
ça.
Aussi.
Mais c'est une forme de massage interne.
Et tarologue? Ça, tu as le droit ?
Ah mais oui, oui.
C'est ça, pareil, ça.
Je fais que des choses que j'ai le droit.
Ah bon ?
Oui. Plus légaliste que moi, ça n'existe pas. Donc alors mais le
ça
tarot...
Ça se déclare comment, ça ?
Ah bah ça se déclare, moi je suis micro-entrepreneur, micro-entrepreneur, voilà. C'est dans la...
Alors le plafond de gain, il a baissé, là ?
Avec
Macron.
Il a augmenté.
Il a augmenté ?
Mais oui, il a été doublé, mais c'est compliqué. Enfin, on n'aurait pas le temps autrement. Voilà. Non, il a augmenté, mais par contre, on va payer de la TVA qu'on ne payait pas avant, à partir d'un certain seuil. Voilà.
Cadeau, et on te reprend
voilà,
tout.
Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, alors, le tarot. Donc, moi, je travaille avec le tarot de Marseille, qui est un jeu particulier. Et alors, qui est un peu connu, parce que les cartes aux anciennes, etc., je l'utilisais. Alors... Moi, j'ai développé une pratique du tarot qui est un peu singulière. C'est-à-dire, un, je ne fais pas de divination. C'est-à-dire, d'abord parce que j'ai pas ce don, et puis en plus parce que je pense que d'un point de vue éthique, c'est très particulier de préserver l'avenir à quelqu'un.
Aussi.
Oui, voilà. Bien. Non, moi, j'utilise le tarot comme un outil de connaissance personnelle, plutôt comme un outil de développement de personnel. Voilà. En général, les personnes qui viennent voir un tarologue, c'est qu'elles butent à un moment donné dans leur vie sur quelque chose. Voilà. Et grâce au tarot, grâce à ces images, qui sont des symboles, en fait, il est possible d'éclairer des choses, des enjeux, de mettre en évidence des choses positives, des choses qu'il faudrait travailler, des conseils, etc.
Mais ça, c'est... Enfin, moi, j'étais tout le temps... Hein, je suis le candide un peu qui pose des questions qui gênent exprès.
Mais vas-y,
si
vas-y.
C'est-à-dire que... moi, à force de connaître des gens, je sais un peu, quand ils me parlent, un peu... les questions que je dois poser, justement, pour un peu ce qu'il faut répondre, un petit peu.
Ouais.
Est-ce que c'est plus de la psychologie que de
chose, non ? Oui.
En fonction des cartes, tu discutes avec les gens, tu les fais parler.
C'est beaucoup de la psychologie, puis aussi beaucoup de l'intuition.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que je pensais. Ouais, tout
et
à fait.
Voilà, moi j'aime bien parler du tarot de l'âme, par exemple, du tarot de l'âme, moi ça me convient très bien. Et c'est, alors évidemment, quand, si on se place d'un point de vue très cartésien, etc., on se dit mais comment Descartes, etc. Et moi, je suis obligé de dire, ça fait 20 ans que j'étudie le tarot. C'est une structure qui est extraordinairement cohérente en tant que telle. Et une consultation de tarot, on va vraiment toucher des choses qui sont très profondes. Parce que c'est un peu l'air de rien aussi, c'est des cartes, quoi. Voilà. Et moi, c'est un travail qui me passionne, vraiment. Et c'est dans la cohérence du tarot, c'est aussi un outil qui est très complexe. Et je pense qu'une vie même ne suffit pas à faire le tour de tout le potentiel de cet objet qu'on appelle le tarot, que j'ai vraiment étudié pendant très très longtemps.
Il n'y a pas de danger là, parce que les mecs qui viennent, ils sont en attente, ils te croient, et patati, si toi tu te trompes, tu ne peux pas les envoyer vers des trucs qu'il ne faut pas.
Alors moi, mon travail, absolument, et d'ailleurs il y a des gens qui en abusent et qui en réabusent, voilà, oui absolument, donc il y a une déontologie à avoir. Il y a une conscience de ce qu'on fait à avoir. Moi, mon travail, c'est pas de prendre le pouvoir sur quelqu'un ou de lui dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Mon travail, c'est, moi, j'ai, grâce au tarot, on éclaire des choses. Et après, c'est la personne qui fait.
Tu amènes les gens à réfléchir.
Voilà. Une phrase qui est pas de moi, mais qui est vraie. Je suis pas là pour te dire ton avenir. Je suis là pour t'aider à construire ton présent. Voilà. D'accord. Et ce qui est important, c'est que la personne, elle reste absolument responsable, justement. C'est rendre une responsabilité à chacun par rapport à sa vie. C'est pas dire, soit quelque chose qui viendrait du dehors, voilà, tu devrais faire ci, etc. Non, ça, c'est absolument mortifère. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le travaille. Et c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'escroqueries. Voilà,
plus quand le tarologue est conteur.
Voilà, mais oui, parce qu'on est un peu baratineur.
Et mais oui, ouais, c'est ça,
mais
quand
ceci
même.
Dit, moi, je rapproche, enfin, pour plein de raisons, je rapproche beaucoup le conte et le tarot. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Mais je pense qu'un tirage de tarot, c'est une narration. Voilà. C'est-à-dire, à partir des cartes, tu vas raconter quelque chose.
Je pense aussi, c'est ça.
Et je pense aussi que des personnes qui ne vont pas bien, c'est-à-dire, l'être humain est un être de fiction. C'est-à-dire, il y a pas, on dit qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est que l'homme se raconte des histoires. L'animal s'en raconte pas. Et il se raconte des histoires même à partir des événements de sa vie. Voilà. Comme dit, ça aussi, c'est pas de moi, mais on n'a jamais vu une femelle gorille dire au mâle quand il rentre le soir comment s'est passée ta journée aujourd'hui. Voilà. Alors que nous, on fait ça. Donc l'être humain est un être de fiction. Et donc on se raconte des histoires. Et quand on va pas bien, c'est souvent qu'on se raconte des histoires qui sont pas les bonnes. Voilà. Et donc, une consultation de tarot, c'est quelque part, quelle histoire je me raconte à partir de ces images qui apparaissent. Voilà. Et à partir de là, est-ce qu'on peut se raconter une autre histoire? Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, en tant que mon travail de conteur, par ailleurs, car n'a rien, qui est évidemment différent de mon travail de tarologue, mais c'est raconter aussi des histoires qui sont là pour éveiller quelque chose, pour faire rêver, pour nous apprendre des choses. Voilà.
D'accord. Allez, on va écouter le deuxième morceau que tu as choisi. C'est Ali Farka Touré et Toumani Diabaté, qui nous chante Gomi.
Voilà.
C'est le morceau qui chante.
C'est le morceau, c'est le titre du morceau. Du morceau.
Là, ça vient de quel pays?
Ça vient du Mali. Voilà, aussi. C'est la grande tradition.
C'est rigolo parce qu'on a fait passer Meyes Ratinski. Tu la connais pas?
Non, non.
C'est une nana justement qui a beaucoup vécu dans tous ces pays-là,
ouais.
Avec l'ONU.
Oui.
Qui est venue s'installer aussi ici.
D'accord.
Ouais. Et qui fait des peintures d'animaux qu'elle a vu dans ces pays, qu'elle peint en direct sur des t-shirts, et qu'elle fait le foire maintenant avec
okay.
Elle, ça.
Ouais, ouais.
Et on a passé pas mal de musique comme
ouais,
ça.
Ouais.
Mais donc, on écoute Gomi! Voilà, super. Très bien. Le Mali.
Eh oui.
Alors, donc, mais tu vas faire aussi du culturel, quand même. Alors, si tu trouves.
Oui, si je trouve. Oui, oui, bien sûr.
Tu n'as jamais cherché à faire tourner des gens, par contre ?
Non, non.
Ça ne te dit pas, ça ?
Moi, je suis...
Parce que moi, ça peut m'intéresser.
Ah oui.
Ah non, mais c'est vrai, parce que c'est difficile de se vendre en soi-même.
Oui, oui, mais c'est sûr.
Très difficile.
Mais j'ai pas tellement la fibre commerciale. Enfin, c'est pas quelque chose, je pense, dans lequel j'excellerais de démarcher, de vendre, tu vois, pour d'autres, etc.
D'accord. Ouais. Okay. Revenons au tarot. Il y a combien de cartes dans ce tarot ?
Alors, dans le tarot, il y a...
Parce que je sais jouer
Marseille.
Au tarot.
Voilà. Alors, en fait, il y a 72 cartes dans 72. Le tarot de Marseille. Il y a 56 cartes qu'on appelle les arcanes mineures, donc où il y a 4 couleurs. Simplement, au lieu que ce soit les couleurs dans un jeu de cartes...
Trèfle, carreau, cœur, pique.
Voilà. Là, c'est denier, bâton, épée et coupe. Voilà. Et tu as aussi ce qu'on appelle les figures, où la particularité, c'est que dans le tarot de Marseille, tu as 4 figures. C'est-à-dire que tu as le valet, tu as la reine, le roi et le cavalier. C'est le seul jeu à avoir une quatrième figure. Et ensuite, parallèlement à ça, tu as à côté ce qu'on appelle ces arcanes mineures, tu as une série de 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures.
Comme la mort, tout ça.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la mort dans le tarot de Marseille, elle n'est pas nommée.
Ah bon.
Il y a le nom, la mort n'est pas marqué. Il y a un squelette qui est représenté.
Avec une faux.
Voilà, mais c'est le seul arcane, pardon, qui n'a pas de nom. Voilà. Et ces 22 arcanes majeurs, c'est avec ceux-là qu'on travaille essentiellement. On travaille aussi avec les arcanes mineurs, mais voilà, c'est avec ceux-là qu'on travaille. Et c'est donc un ensemble de symboles. Que Jung, qui était un psychanalyste, aurait appelé des archétypes, c'est-à-dire des symboles qui pourraient être communs à toute l'humanité, voilà, qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et la force de ces symboles-là, c'est la force de ces symboles-là qui permet de construire quelque chose pendant une consultation. Voilà.
D'accord. Si, par exemple, je vais chez toi, on tire telle carte, je filme bien, tac, et si on reportait exactement le même tirage chez un autre mec... Est-ce que ça pourrait être totalement différent ?
Ça pourrait être complètement différent. C'est-à-dire, en fait, le tarot...
C'est juste ton interprétation de baratin, quoi.
Pas seulement, non, parce que le tarot, c'est un langage optique, visuel. Donc, tu as 22 arcanes, d'accord ? Avec les arcanes majeures. C'est comme avec une langue. C'est-à-dire, dans la langue française, on a 26 lettres, d'accord ? Donc, avec ces lettres, on va faire des syllabes, après, on va faire des mots, après, on va faire des phrases, on va faire des chapitres, on va faire des livres. Mmh. Et avec ces 26 lettres, on peut exprimer presque la totalité de l'expérience humaine. Bon, là, on a 22 cartes. Et ces 22 cartes, en fait, c'est en fonction de celles à côté de qui elles sont, c'est ça qui va déterminer la coloration. Tu prends un exemple, tu prends le mot bleu. Le mot bleu en tant que tel, c'est bleu. Maintenant, tu dis un ciel bleu ou tu dis une peur bleue, on est bien d'accord que le mot bleu n'est pas pareil. Donc en fait, chaque arcane, en fonction de la carte à côté de laquelle il est, chacune se colore et c'est l'ensemble de ces lettres, côte à côte, qui vont créer des phrases particulières. Et après, ben, évidemment, le tarot est un outil qu'on appelle...
C'est comme la musique.
C'est exactement.
Un do, tu le mélanges avec un ré.
Exactement.
Ça fait un certain son alors que tu le mélanges avec
mais
autre chose.
Hein. C'est exactement ça. Pareil. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, évidemment qu'il y a une pluralité de sens. Et l'intelligence du tarologue, c'est pas de dire « Ah ben attends, cette carte, elle veut dire ça, donc si t'as tiré ça, ça veut dire ça. » C'est d'adapter son interprétation, à la personne. Voilà. Et c'est là qu'il y a une intelligence intuitive à avoir. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas là pour sortir des recettes.
Voilà, mais c'est ça qui est dangereux. C'est l'intuition, eh ben ouais.
Et mais en même temps, l'intuition, ça peut être une qualité aussi. C'est une vertu.
Ah non, mais c'est bien. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, le mec qui a une mauvaise intuition, par exemple,
c'est comme tout. T'as des mauvais garagistes, t'as des mauvais musiciens.
Oui. Et les bons chasseurs et les mauvais chasseurs.
Mais voilà, c'est comme tout. Voilà. Moi, je pense que je suis un bon tarot.
Tu m'étonnes. Et alors, comment se passe? Tu vas chez les gens? Les gens viennent chez toi? Ça coûte? Est-ce que
alors, les gens
droit
viennent.
De
oui, bien sûr. Les gens, en général, ça se fait à la maison. Voilà. Je peux me déplacer, mais c'est mieux à la maison. Ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Et ça coûte 50 euros.
Voilà.
Voilà, voilà.
Là, c'est pas de rembourser les clubs.
C'est pas remboursé, mais par contre, par rapport à un psy, c'est que c'est on va dire, un one shot. C'est-à-dire, je vois les gens une fois en général.
D'accord.
Voilà. Donc, ça peut.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent, ça, les psychologues,
hein? Bah, tu
ils
sais,
dans, trop,
mais ça dépend. Tu sais,
c'est
dans
comme les trucs parallèles avec les toubibs.
Mais ça dépend des psychologues, voilà. Ouais, c'est-à-dire, tu as des psychologues en fonction de leur formation, de ce qu'ils sont, qui vont évidemment voir ça d'un œil pas obligatoirement bienveillant. Et puis tu as aussi tous les psychologues, psychothérapeutes qui ont, pour entrer dans le jargon, sous influence jungienne, qui reconnaissent une partie, qui reconnaissent cela dans le travail du tarot. Des outils à mode opératoire qui pourraient être le leur, voilà. Et il y a même d'ailleurs des psys qui utilisent parfois le tarot pour éclairer des choses, j'en connais, voilà.
C'est un peu pareil que par exemple les psychiatres qui te sortent un dessin noir où tu vois un papillon, l'autre il voit. Pourquoi?
Alors ça c'est autre chose.
Mais mais l'interprétation c'est
oui,
un peu
mais sauf que dans la tâche de Rochard, c'est le patient qui dit ce qu'il voit.
Oui, mais il y a quand même une interprétation.
Oui, mais c'est en fonction de ce que le patient va projeter sur ce qu'on lui fait voir, qu'on va construire quelque chose. Dans le travail du tarot, c'est le tarologue qui dit, en fait, qui interprète ce qui apparaît. C'est pas la personne qui vient consulter.
On t'apprend quand tu apprends ça, donc tu as appris ça avec qui d'ailleurs?
Alors, j'ai appris d'abord en autodidacte. C'est-à-dire, j'ai lu un nombre de livres absolument incroyables. Et puis après, j'ai travaillé avec une femme qui s'appelle Marianne Costa, qui a coécrit, alors avec un monsieur qui s'appelle Alexandro Jodorowsky, qui est un homme tout à fait étonnant, qui est à la fois cinéaste, tarologue, auteur de BD. Voilà. Oui,
de
oui,
dedans.
Oui, c'est un écrivain, c'est un personnage absolument protéiforme et tout à fait passionnant. Et Jodorowsky a écrit un livre qui est pour moi le livre de référence sur le tarot, qui s'appelle La Voix du Tarot. Et Marianne Costa a coécrit le livre avec lui. Voilà.
Ouais. Merci. Et ça, d'autres questions. Bon, pourquoi ça vient, ça s'appelle le tarot de Marseille, par exemple?
Alors, ça, c'est une longue histoire. Sur l'étymologie du mot tarot, on ne la connaît pas. On ne sait pas d'où vient le mot tarot.
Parce que le tarot, ça existe depuis perpète. Hein.
Pas depuis perpète. Hein.
Ah
le plus ancien jeu de cartes connu en Occident date de 1430.
Ah bon?
Et le premier tarot de Marseille connu, c'est-à-dire où on reconnaît les figures, le roi, l'empereur, etc., etc., doit dater de 1460 ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent.
Ah
bon. Et l'étymologie du mot tarot, donc on la connaît pas, et tarot de Marseille, parce qu'il se trouve qu'il y avait, en fait, à Marseille, une industrie de quartier, c'est-à-dire de gens qui fabriquent des cartes. Et en fait, il y avait le tarot de Besançon, enfin, je vais faire court, mais... En fonction des lieux, les quartiers en fait utilisaient des conventions, des images qui pouvaient avoir des variations. Voilà. Et celui qui s'est le plus développé, c'est le tarot de Marseille. Voilà.
D'accord.
Parce que les quartiers qui faisaient ce jeu étaient à Marseille. C'est celui qui a été le plus,
plus diffusé. Ça se rapproche beaucoup de, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un jeu espagnol où il y a justement les bâtons, les roues, tout ça.
Oui, oui, oui. Mais de toute façon, on retrouve même. Moi, je suis tombé l'autre jour par hasard sur des jeux de cartes mamelouks qui datent du XVe siècle et dans lesquels on voit bâton, épée, denier et coupe.
Voilà, hein, c'est le même truc. Ouais.
Voilà, il y avait quand même aussi une circulation de culturelle, enfin d'objets, etc. à cette époque-là, quoi.
Voilà. Super. Mm-hmm. Tu es allé toi-même te faire tirer des tarots?
Mais absolument.
Ah.
Oui, oui, c'est une expérience intéressante. Alors après, on peut y être sensible ou pas, bien évidemment, puis ça dépend avec qui on le fait. Moi, je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui va très profondément, qui vient, moi, mais comme le fait le conte, d'ailleurs, auquel on va peut-être venir après, qui vient vraiment nourrir la psyché humaine et vraiment.
Ben oui.
Voilà. Moi, c'est un travail, un objet, enfin, que je trouve absolument passionnant. Et qui évidemment pâtit d'une sorte de mauvaise réputation.
Bah, et à cause des charlatans,
mais,
bien sûr.
Puis,
c'est comme l'horoscope.
Et mais bien sûr, c'est comme tu tapes tarot de Marseille sur Internet, tu tombes sur des sites qui te promettent la lune, ou tu téléphones, c'est des espèces de robots qui te répondent. Voilà, et puis on sait très bien qu'il y a une manière de faire ça, où tu dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre.
C'est le corbeau et le renard.
Voilà, tu dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ils sont contents. Moi, mon travail, c'est pas de dire obligatoirement ce que la personne a envie d'entendre. Mon travail, c'est de dire ce que la personne, je pense, aurait besoin d'entendre. Voilà. D'accord. Et c'est pas du tout la même chose. Donc évidemment qu'il y a une éthique à avoir, et il y a un travail de dépoussiérage à faire par rapport à tout ça.
Nashreddin, ça dit quelque chose?
Eh bien, pas qu'un peu. Tiens, je vais te raconter une histoire de Nasreddin.
C'est pour ça que je veux dire. Voilà. Parce que ce genre de truc, ça fait beaucoup réfléchir.
Oui, oui. Alors, Nasreddin, donc, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage, en fait, de la culture arabe. Donc, il prend des noms différents selon les pays. En Tunisie, c'est plutôt Dja et ainsi de suite. Et c'est le symbole de l'homme qui est à la fois mi-fou, mi-sage, sans qu'on sache très bien s'il est fou, s'il est sage. Voilà. Donc, par exemple, toi qui es musicien, je vais te raconter une histoire, c'est Nasreddin, il est invité à un mariage avec sa femme. Alors, ils y vont, et puis c'est un mariage de riches, et il y a un orchestre. Et donc, ils rentrent dans la grande salle du banquet, et l'orchestre joue. Et dans cet orchestre-là, il y a un joueur de oud, la guitare arabe.
Le luth arabe.
Voilà, le luth arabe, voilà, exactement. Et à partir du moment où Nasreddin entend ce joueur de oud, mais il reste comme pétrifié sur place. Et il mange même pas, il goûte même pas les couscous, les tagines, les pâtisseries. Il est là, sidéré, hébété, à écouter le joueur de oud, toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et il rentre chez lui, et le lendemain matin, la première chose qu'il fait, il va s'acheter un oud. Et il s'installe dans son salon, et il commence à jouer. Et il joue toujours la même note. Et toujours la même note. Toute la matinée, la même note. Toute la journée, la même note. Et la nuit qui suit, la même note. Il dort juste un petit peu. Et le lendemain matin, il reprend son oud et la même note, quoi. Et à un moment donné, sa femme, elle en peut plus, quoi. Elle lui dit, mais écoute, Nasreddin, t'as bien vu l'autre jour quand on est allé au mariage, le musicien, il faisait courir ses doigts sur un morceau de bois. Ça, c'est un hommage à Francis Cabrel. Et ça faisait des variations. C'est ça qui faisait que c'était joli. Et Nasreddin, il continue de jouer imperturbable la même note. Et il lui dit, eux, ils cherchent.
Moi, j'ai trouvé. C'est excellent. Tout à fait. Il y a aussi pas mal de contes, c'est japonais. Où c'est un peu dans le même style. C'est des trucs imagés qui laissent réfléchir beaucoup.
Ah, ça, c'est peut-être le haïku dont tu parles, qui est un poème.
Voilà. Ouais, c'est un peu
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça.
Pareil. Ouais.
Et moi, ce que j'aime dans le conte, alors là, c'est le conte court, et Nasreddin, c'est court qui peut faire réfléchir. Et il y a une grande diversité de contes. Il y a des contes érotiques, des contes drôles, des contes d'initiation, des contes de sagesse, des contes, enfin, il y en a de toutes sortes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ce sont des objets qui paraissent fragiles, inoffensifs, hein, et qui, malgré tout, sont extraordinairement puissants. Et d'ailleurs, le conte, ce qui est extraordinaire dans le conte, c'est que alors, on ne sait pas d'où viennent les contes. Hein. On pense que les contes ont traversé les siècles. Hein.
Ce qu'on appelle les contes à rebours.
D'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ils ont traversé les siècles. Pour des raisons qu'on ignore, il y a des contes semblables dans tous les continents, avant même qu'il y ait des moyens de communication entre ces continents. Voilà, ça c'est aussi un grand mystère. Et les empires se sont écroulés. Les empires se sont écroulés, les pays parfois ont disparu, et les contes qui n'étaient même pas écrits jusqu'au XIXe siècle ont survécu. Voilà.
C'est comme, c'est Nasreddin, je crois, qui rend service, je sais plus l'histoire, et le mec lui dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux juste un grain de riz, puis tu doubles sur la deuxième
ça,
case,
voilà.
En définitive, ouais. Ça fait des milliards.
Voilà, c'est ça.
Moi, je commence le spectacle en disant, un seul être vous manque, et la vaisselle n'est pas faite. ça fait réfléchir aussi. Allez, on va écouter Christian Vander.
Alors
ça
oui.
S'appelle M. Dine. Alors, c'est le leader
M-Days,
de.
Dice, ouais.
Pardon, c'est le leader de Magma.
Voilà.
Bien sûr, qui tourne toujours, bien sûr.
Alors, qui tourne toujours. Et alors, ce morceau, M-Days, il n'a pas été enregistré sur un album de Magma, il a été enregistré sur une autre formation de Christian Vander qui s'appelle Offering. Mais il se trouve qu'en ce moment, Magma termine tous ses concerts par ce morceau-là, M-Days. Que moi je trouve très beau. CFM sera peut-être la première radio au monde à passer ce morceau-là.
Ouh, c'est pas sûr, parce que notre ami Robert, dédier ça, lui, il connaît par cœur.
Voilà.
Tout ça.
Voilà.
Et si je ne connais pas, tant mieux pour lui.
Voilà. Et je fais partie de ceux qui pensent que Christian Vander est un génie. Voilà.
Mais tombe pile, Vander. Ça va nous faire voilà. Allez, on écoute.
Thank you. Cendre visse bella e dure, ende i jinghi, entre visse bella e, ende i, entre visse bella e dure, ende i jinghi, entre visse bella e dure, doverai di vire troi, doveri ti. And this dover in the lost to feel am I to the dover in the light in the is in the receiver love and the is in the ukumanong mame mamuluti. In Gimadin, Andre Visevilla, and the Ukumamon, Gimami Mamoluti, Dover, the Fear and Rai, Dover in the, and the Dover in the joy, the fear, am I, Dundi. Dover in the light in the east. E que mamonde, e que mamonde,
Bernard Lavillier, comment il se... je sais comment passer après, Christian Vander, je veux dire, c'est comment le langage qu'il a...
Le cobaye.
Le cobaye, voilà.
Voilà, le cobaye.
À l'époque de Stella Vander et tous ces gens, Klaus Blaski, Benoît Wiedemann.
Il y en a eu plein, il y a eu 150 musiciens qui sont passés dans Magma.
Et il n'a jamais autant tourné.
Il n'a jamais autant tourné qu'en ce moment. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres musiciens qui mélangent de cette manière-là à la fois le jazz, Stravinsky, les musiques d'Europe de l'Est, la musique classique. Voilà, j'en connais pas d'autres. En plus, c'est quand même un génie rythmicien. Voilà. Et c'est typiquement le type de musicien. Alors, quand on dit Magma, souvent on dit, oh ouais, Magma, ouais, c'est vieux, c'est truc bidule, et puis c'est spécial, etc. Mais je pense que c'est quand il ne sera plus de ce monde qu'on va se rendre compte que, de l'extraordinaire richesse de ce qu'il a créé. Et je pense que c'est la musique classique du 20e et du 21e siècle qui est en train de se faire.
Quand tu fais soit les cartes, soit les massages, est-ce que tu passes de la musique derrière?
Non. Alors, sur le tarot, il m'arrive d'utiliser un tambour, voilà, parce que je trouve que le son du tambour permet à chacun d'entrer dans une intériorité, voilà, par rapport au, par rapport au travail. Mais autrement, non, en général, c'est à part le tambour que j'utilise parfois pendant le tarot, il n'y a pas de son.
C'est sûr que ça avait tambour du Bronx derrière.
Non, ça n'entendrait
que là. Alors, si des gens sont intéressés, est-ce que tu as un contact?
Alors, oui, j'ai un contact. La difficulté, c'est que là, je suis en train de tout revoir au niveau de mes sites, donc tout va être refait, tout va être voilà. Le plus simple, compte tenu de toutes mes activités, parce que du coup j'ai plusieurs sites et puis bon, enfin voilà, puis ils vont être faits. Mais il y a un site qui s'appelle Dominique Motte Blogspot.
Un seul truc.
Voilà, Dominique Motte, tout attaché. M-O-D-T-E, dominiquemotte.blogspot.
B-L-O-C-K-S-P-O-T.
Blog, c'est blog. Blog, comme un blog, avec un G, spot.
Attaché aussi.
Tout attaché, S-P-O-T, spot.com. Et là-dessus, il y a des liens vers l'ensemble de tous mes sites. D'accord. Parce que j'écris aussi, enfin, j'ai aussi des blogs sur lesquels j'écris des textes. Enfin, voilà, il y a des pages Facebook, il y a plein de trucs. Sachant que tout ça va considérablement bouger très prochainement, voilà. Et il y a aussi le lien donc vers mon site de compteur, voilà, qui est quand même une partie très importante de mon activité.
Henri Gougo, ça te dit?
Mais bien sûr.
Oui, le premier, oui. C'était celui qui parlait avant Henri Gougo, le copain de Brassens là. Il y avait une grosse barbe qui était compteur aussi d'ailleurs.
Ah oui.
Chabrol.
Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui. Bah Gougo, c'est un peu le grand-père tutélaire de tous les compteurs en France, parce qu'il est historiquement un de ceux à l'origine du renouveau du compte. Et puis c'est un de ceux qui, moi, je l'ai rencontré quelques fois, je l'ai programmé, je suis allé l'écouter plein de fois. Voilà. Enfin, on peut pas être compteur sans avoir écouté ou lu Henri Gougo, quoi. C'est vraiment. C'est incontournable. Voilà.
Ouais. Moi, j'ai mis en musique « Je suis la ville » d'Henri Gougo, qu'on a fait dans un spectacle avec justement Cathy, tous les gens de poètes et chansons.
Oui. Et d'ailleurs, j'ai découvert, mais alors, je pense que c'est tout à fait un hasard, que Gougo, à l'époque où il était chanteur, a fait un disque où tous ceux qui. Et les musiciens étaient les musiciens du Magma de l'époque, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, Teddy Lesserie et tout ça. Ouais.
Ben, c'est super. Et à part ça, tes goûts, c'est quoi alors?
Mes goûts en quoi?
Déjà en musique.
Alors moi en musique, je suis d'une curiosité absolument. Alors pas de tout, mais disons, voilà, le jazz, les musiques du monde, la chanson.
Zaz, Florent Pagny.
Non, ça pas non, trop. Ça, pas non, trop, ça ouais, j'ai ouais. plus de mal. Mais c'est pas un jugement de ma part. Hein. Simplement, voilà, j'y suis moins sensible. Voilà.
Quel est ton livre préféré?
Ah, alors mon livre préféré. Alors là, je vais être un peu sérieux un moment. C'est un livre d'une femme qui s'appelait Etty Hillesum et qui s'appelle Une vie bouleversée. Et Etty Hillesum était une jeune femme juive qui vivait à Rotterdam ou Amsterdam, voilà, pendant la guerre, qui est morte déportée et qui a écrit un journal pendant ces années où elle était donc à Amsterdam pendant l'occupation, qui à mon sens est une des choses les plus belles et les plus profondes qui n'ait jamais été écrite, voilà. Moi, c'est un des livres qui a changé ma vie. Voilà, il y a des livres qui ont ce pouvoir-là. Et Une vie bouleversée de Etty Hillesum, c'est Au seuil, fait partie de ces livres-là.
Ton chanteur préféré?
Mon chanteur préféré. Alors là, c'est vraiment compliqué. Il y en a plein.
Mais par exemple, en chanson française, parce que sinon, c'est trop large.
Là, j'aurais vraiment du mal.
Ta chanson préférée, t'es. Une chanson, belle chanson française.
Oh purée, alors là, c'est vraiment, tu me poses une colle. Hein. Mais ouais, parce qu'il y en a trop.
Il y en a trop, ouais. Je veux dire, c'est plus près de Brel, Barbara, je sais pas, Brassens, moi. Mec, prétentieux.
Non, ça, c'est trop
très
compliqué.
Difficile. Ouais, ton plat préféré, t'es. Est-ce que tu manges de tout déjà?
Ouais.
Juste,
je mange presque.
Végane, pas de
viande. Non, je mange presque de tout.
La viande, hein.
Ouais, je mange presque de tout. Voilà.
Bon vin aussi, tu aimes tout ça?
Oui, mais la saucisse sèche qui est faite à la fouillade, là, j'avoue que je me laisse bien tenter.
Est-ce que tu as voyagé beaucoup dans ta vie?
Pas assez à mon goût. Voilà.
Tu vas voyager, t'aimerais voyager?
J'aimerais, oui, voilà, je trouve que c'est toujours une belle aventure, le voyage. Voilà. Donc, je suis allé dans peu de pays. Je suis allé en Hollande, en Pologne, en Espagne et en Thaïlande. Voilà.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
C'est bien.
Ouais.
Bon, on va écouter là tout de suite Bernard Lavilliers dans une version spéciale. Le morceau s'appelle Petit.
Voilà, c'est une chanson qu'il a faite dans les années 80 et qu'il a réenregistrée récemment dans un album qui s'appelle, je crois, Acoustique, avec une coloration un peu flamenca. Ouais, ça, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Que je trouve très belle.
Lui, c'est pareil. Lavilliers. J'adore ces chansons, mais le personnage, avant, je ne l'aimais pas du tout.
Ouais.
Et avec les voyages et les années, il a beaucoup changé.
Il s'arrondit,
ouais,
oui, c'est super.
C'est ce que j'aime bien.
Puis moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée que les artistes, aussi géniaux qu'ils soient, devaient être obligatoirement sympathiques. Voilà.
Ouais, mais ça dépend aussi de ce qu'ils disent. Tu comprends? Quand ils disent des trucs et que dans la vie, ils ne les appliquent pas, c'est beaucoup plus gênant. Moi, ça me gêne beaucoup. Moi, j'ai du mal avec ça.
Ouais.
Allez, on va écouter leur petit.
Un enfant avec un fusil trop grand. Un enfant marche lentement, à pas hésitant. Au milieu du sang et du silence, et du silence. Un enfant, mais apparemment c'est plus un enfant. Depuis très longtemps, très longtemps, trop longtemps. Bientôt 10 ans, t'as jamais joué au voleur, au gendarme qui a peur, à l'insouciance. Petit, tu devrais regarder les filles et voir dans leurs yeux qui brillent des valses lentes. Tu vois dans leurs yeux des éclairs de feu, des dents déchirées par les barbelés et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu mourir? Un enfant.
Voilà. Eh bien, tu vois, on ne peut pas l'écouter jusqu'au bout. Ça passe vite, il faudra que tu reviennes.
Eh bien, avec plaisir.
C'est super. Je te remercie d'être venu, d'être resté.
Ben, merci d'avoir invité, comme on dit.
C'est avec plaisir. Merci aussi à notre ami, là, qui nous a fait la technique. C'est Lucas. Merci beaucoup. Et donc, on va se quitter. Ben, on ne peut pas écouter Petit jusqu'au bout. On va écouter après Shakti, Mind Ecology.
Oui. Alors, Shakti, c'est un groupe qui a été monté par un très grand guitariste qui s'appelle John McLaughlin, qui a joué avec Miles Davis, etc. Ouais. Et qui a monté une formation avec des musiciens indiens.
Tout à fait, ouais. Un mec au tabla, un mec au
violon, et puis il y avait des gens en percussion, de la tempura derrière. Voilà. Il avait une guitare particulière où les frettes étaient creusées pour pouvoir jouer les quarts de ton.
D'accord, okay.
Et voilà, pour moi, c'est un sommet aussi de la musique, Shakti.
Voilà, comme ça, on aura tous tes goûts.
Et bien, enfin, une partie, parce qu'il y en a d'autres.
Voilà. Ok, ben, ciao, merci beaucoup.
Et bien, merci, au revoir.
Et merci, Lucas. Quant à nous, on va repasser quelques émissions parce que nous, on part en Allemagne et on revient dans 2 semaines. Voilà. Bonne journée. Ciao.